podium.
We're now in session.
Nous sommes, la session est entamée. Bienvenue, je m'appelle Steve Crocker, président du directoire de ICANN. Ensuite, Denise Michel, qui est à la tête de la mise en œuvre de l'équipe de révision, des recommandations de l'équipe de révision de la mise en œuvre et de la responsabilité de la transparence, et Bruce Tonkin, vice-président du directeur, Shirin Chalabi, Ray Polzek, membre du directoire, Manal, vice-président du GAC, pardon. Elle fait un travail tout à fait essentiel au sein du GAC. Je suis sûre qu'elle serait utile également pour ALAC. J'aimerais commencer par des félicitations à une déclaration d'engagement et des excuses dans l'ordre que je viens de citer. La TRT a produit une série de 27 recommandations, vraiment un excellent effort et avec d'excellents résultats. Nous, dans la structure d'ICANN, le directoire et le personnel, nous avons vraiment repris toutes ces recommandations et sans réserve et nous les mettons en œuvre, chacune d'entre elles. Vous allez entendre parler de Denise, les détails là-dessus. Nous collaborons de près pour que cela soit des opérations purement pro forma ou bien de pure répétition. Vous avez entendu parler des déclarations de Larry Strickling, le remplaçant secrétaire et de coprésident AT&T suggère que si une question était test serait de si quelqu'un y venait plus tard dans un an, est-ce que les gens pourraient identifier ce qu'ils ont fait différemment suite aux recommandations? Je pense que c'est raisonnable, c'est un test tout à fait raisonnable et qu'on pourrait y répondre. Je pense que je veux un test plus corsé. Est-ce que nous avons incrusté tous les changements nécessaires assez profondément dans nos processus, dans nos procédures ou, comme on dit, dans notre ADN pour qu'il n'y ait pas de distinction entre ce que nous faisons régulièrement et ce que par rapport à ceux qui se retrouvent dans les recommandations AT&T. Peut-être qu'il y a un document historique qui retrace ces changements, mais toutes les personnes qui travaillent dans le système, qu'ils soient ou non là depuis un an ou plus, ou qu'ils viennent d'arriver, ou plusieurs années plus tard, qu'ils fassent partie de la manière dont nous opérons. Et vous allez voir, sans vouloir retirer le point fort de cette déclaration, mais maintenant c'est inclus dans la mise en œuvre du processus de mise en œuvre. Et je veux souligner encore davantage au niveau personnel, en parlant à la fois au titre individuel et comme président du directoire, je regarde de près ces mises en œuvre et ils restent dans mon agenda. C'est pas que je tous et qu'ils puissent avoir lieu direct. Je peux puisse faire quelque chose directement pour qu'ils soient mis en œuvre, mais je veux qu'ils continuent à avoir une autre visibilité. Le président Wade du Sénégal va venir bientôt et son arrivée demande beaucoup d'organisation. On a dû modifier l'agenda. Un des effets secondaires, c'est que quelques d'entre nous, Rod et Heather et moi, nous devrons disparaître un peu plus tôt que prévu de cette session. Je suis désolée, ce n'est pas que je ne comprends pas l'importance de fournir de soutien, mais je ne peux pas être dans deux endroits au même moment. Donc, je donne la parole à Denise Michel maintenant. Merci, Steve. Donc, l'agenda est affiché sur l'écran, juste pour vous dire comment nous allons opérer. Je vais vous donner un survol rapide des 27 recommandations à TRT, les managers de projet qui sont dans le personnel, qui sont responsables pour leur mise en œuvre, sont également ici, et ensuite nous passerons à la discussion du directoire sur trois catégories de recommandations: au directoire, GAC et commentaires publics. Comme Steve a dit, nous sommes acculés au terme de temps et le président va faire une adresse. Donc, j'ai beaucoup d'informations en ligne, si vous voulez. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez vos laptops et à la page de ICANN à gauche, vous allez voir responsabilité et transparence ATRT. Un clic, vous allez arriver à la page là-bas où on a toutes les informations sur nos activités clés de transparence et de responsabilité. Vous verrez une mise en relief d'un résumé d'une page qui a été également publié sur un document dur et tous les plans de mise en œuvre sont également postés là-bas, et également des résumés des activités récentes. Donc, juste pour que vous m'assurer que vous compreniez, la page unique qu'on vous a distribuée ce matin, cela vous donne un survol de notre position en termes des seuils et des étapes importantes. Donc, sur ces 27 recommandations, cela comprend bien sûr la liste à gauche. Vous avez les recommandations de transparence et de responsabilité organisées en termes de domaines clés. Ensuite, la date butoir proposée et le statut de seuil d'étape importante. Si c'est vert, ça veut dire que c'est achevé, et la date butoir, ou plutôt l'objectif final, cela vous donne une petite idée de l'apparence générale et quel est notre objectif final pour ce projet en particulier. Donc, le directoire a accepté et a demandé la mise en œuvre des recommandations dans le rapport ATRT, à l'exception de demander au personnel de faire davantage de recherches sur les recommandations pour la recommandation 5. Et le directeur a signé plusieurs comités, les recommandations à différents comités, et pour le contrôle, la surveillance, et un nouveau groupe sera formé comme service de liaison avec le GAC sur les recommandations ATRT se rapportant au GAC. Et on a demandé des seuils et des paramètres de mesure, faire mesure du plan, de la progression du plan. Donc, dans la composition, les opérations du directoire, la composition et la révision des décisions du directoire, certains membres sont ici Et ils ont donc ils ont assigné le survol, la surveillance de sa recommandation. La moitié, un peu plus de la moitié des recommandations, 5 ont été entièrement mises en œuvre et sont intégrées dans nos procédures opérationnelles normales et régulières, et 10 sont en cours et des progrès ont été enregistrés. Les recommandations inter-AT achevées sont listées sur cette diapositive. Bien sûr, afficher des informations exhaustives du directoire ont été incorporées dans nos procédures opérationnelles standards, et cela se passe depuis quelques temps et comprend les réunions, les briefings de réunion du directoire, les motivations des déclarations des résolutions du directoire et les rapports préliminaires. Et ils sont affichés en les six langues des Nations Unies. Les directives de rédaction furent un des premières recommandations interprétées à être complétées. Les directives sont affichées tôt cette année. Et maintenant, il y a du suivi qui a été effectué. Le matériel du directoire est affiché aux 21 jours au plus tard de toute action du directoire. Et ces modèles de référence sont plus faciles à utiliser et plus faciles de suivre les actes pour les requêtes de nouvelles décisions. Donc, le travail additionnel en cours que le BGC surveille comprend toutes ces recommandations. Beaucoup de travail a été fait. Le travail qui était déjà en cours avant le rapport ATRT est renforcé et revoir et les programmes de renforcement des compétences et la prise de décision, bien sûr, les normes comme a pris l'initiative et effectué plusieurs changements dans leur procédure opérationnelle et coordonne avec le BGC sur l'élaboration et la mise en œuvre de directives permanentes pour le NOMCOM. Bien sûr, le NOMCOM a fait encore davantage l'année dernière et il continuera sur la sensibilisation. Et Adam est là, Adam Peak, et il pourra nous en parler davantage. Nous continuons à améliorer la performance et les pratiques du directoire. Si vous voulez davantage d'informations en ligne, il y en a. Encore une fois, la moitié des recommandations ATRT se rapportent au directoire, donc je vais les survoler rapidement. Je vous demande de regarder toutes les informations affichées en ligne pour davantage d'informations. Le progrès est continuel de la mise en œuvre des hypothèses de compensation pour les directeurs du directoire avec droit de vote. Et la période de commentaires vient juste de clore et clarifier la distinction entre le processus d'élaboration de politique et les questions de type fonctionnel de l'administration. Il y aura donc possibilité d'avoir des consultations publiques là-dessus, certifier les commentaires d'élaboration de politique sont également analysés par le directoire et pour être intégrés les commentaires des experts indépendants sur la restructuration, les mécanismes de révision des restructurations. Le travail avance et finalement les deux dernières propositions, c'est la compliance du Ombudsman, des opérations du Ombudsman. On a un nouveau Ombudsman ici à Dakar. Il vient de commencer de travailler sur le cadre de travail Ombudsman. Il va coordonner avec le BGC là-dessus et finalement clarifier les normes, les standards pour les requêtes de nouvelles décisions. Et sur le travail progresse également. Le groupe de recommandations portant sur les opérations GAC, l'engagement et l'interaction avec les recommandations du directoire progresse. Le directoire a accepté le rapport du groupe conjoint et il va nommer un groupe de travail pour servir de liaison avec le GAC pour la mise en œuvre à la fois du rapport, du groupe de travail, des recommandations et des recommandations AT&T sur rapportant GAC. Et on a également, le personnel a également en simultanément élaboré une méthode initiale pour suivre l'ADVI GAC en ligne, et le groupe de travail va tenir compte de cela lorsqu'il se réunit. ICANN a fourni des fonds additionnels, des ressources au personnel et également des services d'interprétation pour assister le GAC dans son travail. Donc, voici les recommandations sur rapportant GAC que le GAC, sur lequel le GAC travaillera en coordination avec le directoire. Au sujet des commentaires publics et de l'accès multilingue, deux recommandations AT&T ont été mises en œuvre et intégrées dans nos procédures opérationnelles régulières. On travaille sur trois recommandations additionnelles dans ce domaine. Donc, les deux qui sont complétées créent une prévision annuelle de commentaires publics et les organisations de support et les commissions consultatives ont fourni des commentaires à notre manager de participation publique et la liste fut élaborée et postée. Et cela va... Ce sera un processus annuel pour vous donner un avis sur les forums de commentaires publics à l'avenir. La stratification et les commentaires, les réponses aux commentaires, les cycles de commentaires, tous ont été bien faits avec beaucoup de commentaires du public et ça a été très utile. Le travail va continuer à progresser avec un accès multilingue sur les PDP et la dotation personnelle pour les hauts cadres, tout cela, 21 et 22, ont déjà été faits. Voyons. Donc, 21 et 22 sont sur cette diapositive, sont achevés. Donc, la prévision annuelle est faite dans le cadre de nos procédures opérationnelles et les activités pour assurer qu'un personnel multilingue de la haute administration. Tout ça est également terminé. Donc, les recommandations pour mesurer le succès, les recommandations finales sur l'AT&T et finalement les recommandations AT&T sur la responsabilité et la transparence en mars et en juin de cette année. Tout cela est en ligne. On vous encourage à tout consulter. Nous avons également mené une sensibilisation additionnelle et des sollicitations de commentaires publics sur beaucoup de questions, y compris un webinaire international que nous avons organisé quelques mois auparavant et nous prévoyons d'émettre un rapport annuel sur nos progrès et nos succès. Le statut des recommandations AT&T vers la fin de l'année fiscale. Donc, je voulais tout simplement mettre en exergue la possibilité de soumettre des commentaires publics. Vous pouvez ajouter là-dessus, mais il y aura une période de commentaires publics ouverte sur le travail non-com, l'identification des séries de compétences et c'est le rapport des experts sur les mécanismes de révision et les politiques sur les résolutions de conflits d'intérêts et la compensation du directoire et la politique sur les conflits d'intérêts. Et tout cela sera émis ouvert bientôt aux commentaires publics. Donc maintenant, cela conclut mon survol très bref du travail dans ce domaine. J'aimerais donner la parole au président du comité de gouvernance, Bruce Tonkin, et les membres du BCG pour commencer une discussion et écouter votre opinion sur les recommandations AT&T se rapportant au directoire. Merci, Denise. Quelques commentaires sur des choses que nous travaillons récemment, sur lesquelles nous travaillons récemment. Une de ces choses étant la formation du directoire. De par le passé, nous avons toujours fait donc des choses, la formation traditionnelle, conventionnelle du directoire, dans le sens du rôle d'audit, des comités d'audit et des finances. Récemment, on améliore la formation sur des choses spécifiques à ICANN. Donc, on a des formations techniques. Vous avez les travaux sur DNS système et de formation sur les conflits, également sur l'écosystème, comment il fonctionne, les rôles, les organisations. Le ITU et la gouvernance Internet, ici au Sénégal, nous avons eu des présentations des gens de la communauté africaine sur des questions qu'ils ont par rapport à l'adressage IP et l'inscription de nom de domaine. Donc, voilà. À part cela, nous avons également analysé des choses comme les processus de nomination à la fois du président et du président élu pour le comité de nomination cette année, l'amélioration de processus pour que différentes parties du processus soient rendues publiques, un aspect en étant, comme vous allez voir avec les critères de recherche au cours de cette semaine, la commission de recherche et parle des critères de recherche qu'ils vont utiliser et des choses similaires. On a discuté de choses similaires sur la commission de nomination pour n'importe quelle année. Quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour chercher les gens pour remplir ces positions? Voilà un résumé de nos discussions. Les membres que nous avons ici, nous avons Rob Pozak, Shirin Chalabi. Je vais demander si Shirin aimerait faire des commentaires, mais à part cela, nous aurons des commentaires du public. Non? Donc, nous passons la parole au public. Si quelqu'un aimerait faire des commentaires ou des suggestions sur la manière d'améliorer les opérations du directoire ou la composition du directoire, par exemple, j'aimerais savoir. Graham ne se sent pas très bien. Chris Disbane va répondre à la question se rapportant à la révision des recommandations se rapportant au directoire. Bonjour. Juste quelques informations quant au NOMCOM. Est-ce qu'on a des sessions de faire aujourd'hui? Bien sûr. Je suis le président sortant et Monsieur Vanda Cartesini, Madame Vanda Cartesini sera la nouvelle présidente et Rob Hall sera le président élu. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de nous réunir avec toutes les organisations qui envoient des membres et pour qu'ils déterminent les meilleures compétences requises pour être directeur de cette organisation. Donc, quelles sont les caractéristiques pour qu'il faut un bon directeur? Quels sont les écarts, les manquements qui existent dans les gens que nous voyons? Et quand nous essayons d'établir un dossier des types d'informations. Qu'est-ce qu'on a besoin dans les directeurs de ICANN? Quels seront les défis auxquels ils devront être confrontés pendant les deux ou trois années à venir? Et on commence un processus de sélection. Peut-être que les gens ne vont pas. Elle sera entrée dans ses fonctions dans trois ans, mais
after that, so we're looking to a very forward-looking.
On cherche un processus très prévisionnel et nous avons une réunion de table ronde qui est ouverte à la communauté. On cherche des commentaires sur toutes ces questions. Quelles sont les séries de compétences, pas seulement pour le directeur, mais pour le GNSO, pour ALAC, pour le CCNSO, parce que le NOMCOM s'est choisi pour toutes ces positions. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour le leadership d'ICANN? Et on cherche des idées de la communauté, en provenance de la communauté. Donc, c'est vraiment une réunion très importante et nous aimerions entendre parler avoir des commentaires publics. Merci. René Fritschich, président de Nominet. Et ma question porte sur le directoire dans son ensemble. Est-ce qu'il est clair pour vous de ce que vous devez faire différemment ou encore ce que vous devez mieux faire pour que vous ayez des résultats mesurables? Comment est-ce que vous savez que la formation a eu l'impact souhaité? Merci, Ray. Allez-y, Ray. Merci, Ray Plezac. Merci ce que vous avez. Vous faisiez ce que le BGC a commencé. Il a lancé une initiative sur la formation du directoire quelques années auparavant et nous appliquons actuellement la méthodologie établie pour le développement de la formation qui implique plus ou moins une sorte de, d'élaboration d'un type de type formation de, d'ingénieur à l'approche de la formation. Et donc, que ce soit que la personne amène avec elle, le type de compétences qu'elle amène avec elle, ou différentes compétences qu'elle, dont ils ont besoin, ou les connaissances sur ICANN, son organisation, les fonctions, beaucoup de choses. Il y a des outils que nous, dont nous avons besoin pour faire notre travail. Mais il y a également des compétences qui sont attachées à cela et la capacité de... le niveau de capacité de nos attentes pour que, par rapport à ce, la capacité de cette personne à acquérir la connaissance et la formation, c'est également une mesure, une référence de l'évaluation sur comment ils peuvent faire leur travail. Et donc, certains de ces, par rapport à certains de ces problèmes, il y a des mesures qui ont été prises pour tenir compte de la capacité du, des membres du directoire à faire leur travail, mais pour le faire en termes de tâches individuelles, la capacité du directeur à fonctionner comme dans son ensemble, et c'est vraiment différent. Et c'est quelque chose que une série de processus et de procédures, et nous sommes en train de l'analyser maintenant. Mais très bonne question. Quelque chose qui m'a préoccupé depuis longtemps et j'ai m'efforce beaucoup de faire en tant que président, c'est d'élargir notre formation et notre éducation. C'est vraiment pas seulement la formation en se c'est pour inclure non seulement les compétences auxquelles on pourrait s'attendre, par exemple la finance, les responsabilités juridiques, etc., pour inclure également une certaine dose de connaissances sur la manière dont ICANN fonctionne, également l'environnement commercial, technique, et des questions sur comment mesurer et comment dire l'efficacité, mesurer l'efficacité. Wei a répondu en ce qui concerne certains des méthodes standardisées pour cela. J'ai également en tête que nous pouvons mesurer pas seulement les changements dans la performance en soi, mais également mesurer les niveaux de connaissances. Un exemple, une petite anecdote, dans le directoire et dans cette pièce également, une petite fraction seulement des gens qui viennent avec des connaissances sur le fonctionnement du nom de domaine, même au niveau le plus rudimentaire, c'est pas grave, mais si nous étions tous sur le directoire de General Motors et on ne savait pas comment les voitures fonctionnaient, ce serait un peu bizarre, il me semble. Donc, je suis préoccupée sur la manière d'élever ce niveau de connaissance et comment tester cela, et nous allons le faire, mais je crois que ce sera évident. Dans ce processus, il y aura toutes les rétroactions qu'on perçoit au cours de ces processus d'éducation de formation. Et quelqu'un peut dire quel est le niveau de confort, si les gens comprennent plus ou moins ce qu'on dit, et à un moment donné, s'ils ne le comprennent pas, pour moi, ça me signalise qu'il faudrait davantage de connaissances, de formation. Donc, c'est un processus en pleine évolution, mais on voudrait augmenter, finalement établir des syllabus et des documents pour que ce processus s'auto-alimente, et j'aimerais voir un curateur ou une autorité intellectuelle qui gère le corps de l'enseignement et qui serve donc de responsable pour la formation du directoire. Puis-je poser une question au nom de Karen McCarthy? Comment est-ce que le directoire certifiera les commentaires au sujet de la politique sur l'élaboration de politique? comment c'est considéré par le directoire. J'ai un peu des difficultés à analyser cela. Nous avons un processus d'élaboration politique très précis et les politiques sont élaborées par les organes politiques et les organisations de soutien. Et je ne sais pas ce qui est mal défini dans tout ça. Est-ce que quelqu'un... Chérine, vous voulez ajouter quelque chose à cela? Je pense que Kiren parle de la recommandation 20, n'est-ce pas? Je pense que cela porte sur le fait... Comment est-ce que vous pouvez introduire les commentaires au sujet de l'élaboration de politique, que ces recommandations, ces commentaires soient enregistrés, intégrés, et comment prouver que cela s'est produit? Et je pense que nous avons déjà lancé cela, et une preuve que cela s'est produit, c'est qu'on publie la motivation. Donc ça montre toutes les arguments. Donc le directoire tient compte de cela et on publie déjà. Vous avez beaucoup d'entre vous, vous avez vu au cours des réunions du directoire, on publie le raisonnement. Donc on a fait une amélioration. Les choses sont différentes maintenant. Je suis sûre qu'il y a davantage à faire pour renforcer le processus, mais nous sommes en bon chemin. J'ai vu plusieurs mains levées. Heather? Merci, Steve. Du point de vue GAC, peut-être que vous le savez, nous avons entrepris du travail avec le directoire pour voir le rôle du GAC et de voir la manière d'améliorer et de mieux retransmettre notre façon de travailler et les questions, les problèmes auxquels nous sommes confrontés en faisant partie de cette organisation. L'une des organisations principales que nous avons est soumise dans le cadre de ces efforts, c'était de la création d'un registre des avis du GAC. Et si vous pouvez suivre les commentaires reçus et suivre comment les réponses données à ces commentaires, quelles actions ont été prises à la suite des avis fournis au directoire et à la communauté, alors cela contribuerait au renforcement du processus d'élaboration de politique et renforcerait les communications, etc. Donc je pense que c'est une réponse partielle à la question qui a été posée. Je crois que le GAC donne une grande priorité à ces outils pour faire vraiment la différence dans notre rôle dans le cadre du processus ICANN. Je suis vraiment en faveur de la création de ce registre afin de suivre tous les avis du GAC. Nous sommes en cours nous travaillons sur les détails, sur les mécanismes et voulons réussir ce test que quand quelque chose est mis dans ce registre, les gens qui ont initié cela et ont une attente et que les gens qui doivent agir par rapport à cela, comprennent également bien de ce qui a les enjeux et savent quelles sont les prochaines démarches afin que nous essayons de réduire cela à un processus commercial réussi et que cela soit répétable et efficace. Je crois que cela doit se passer, produire dans le cadre du processus du bas vers le haut. Également, quand ça vient vers le directoire, quand c'est un échec, quand quelque chose vient au directoire et ça n'a pas été analysé par les corps d'élaboration, que ce soit le GNSO ou l'organisation d'adressage, je pense qu'une des choses que le directeur doit faire, c'est que cela soit envoyé au corps d'élaboration de politiques appropriées et on doit s'assurer que ce corps a pris cela en compte en premier avant que le directoire joue tout son poids. Et je pense que le processus de politique est encore... plusieurs couches, plusieurs strates, et les commentaires on doit tenir compte de ces commentaires au niveau de la première strate. Et Donc, je suis désolée, je dois vous quitter. Merci beaucoup pour les questions. Continuez le bon travail.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la question du directoire? Je pense que nous allons alors passer à la prochaine, au prochain point avec la prochaine diapo. C'est un autre aspect important de l'interaction entre le directoire et le comité consultatif. On a une interaction qui a eu lieu à propos des nouveaux GTLD et moi-même, je pense moi-même que ça va donner lieu à des améliorations. Le membre du GAC et Ismaël peut-être peuvent faire des commentaires ou accepter des questions sur ce point-là. Merci, Bruce. Heather doit partir, et donc je vais la remplacer. Je suis un membre du GAC et je participe au comité de transparence. Et comme l'a dit tout à l'heure, comme cela a été dit, c'est une partie cruciale des recommandations de l'ITRFT. Je pense que c'est très important d'avoir un accord sur ce qui est considéré comme un conseil, une recommandation du GAC. Il faudrait que ce soit simple, comme ce que l'on attend du côté de la part du directoire et qu'est-ce qu'on attend de la part du GAC. Il faudrait que ce soit clair. Et le registre en ligne qui a été mentionné plus tôt a une importance spéciale parce que le GAC, les représentants du GAC changent. Les membres du directoire changent et c'est très important donc d'avoir une plateforme de ce type qui permettra de suivre les conseils actuels, mais aussi d'être une référence pour ces conseils et d'assurer que des contenus cohérents fassent partie des archives du GAC. La question aussi du calendrier du GAC, les délais du GAC, c'est une autre recommandation que nous allons étudier. Ce sera utile si l'on entend des commentaires de la communauté, à savoir comment est-ce qu'ils considèrent le fait que le GAC participe tôt dans le processus. Jusqu'à maintenant, le GAC fournissait ses conseils au directoire et le PDB. Et lorsqu'il atteint le directoire, était déjà à un état de maturité important et devenait donc une déception, un retard lorsque le GAC a cessé de présenter ses préoccupations ou d'aborder, de soulever certains problèmes très tard dans le processus. Donc ça a été très utile lorsque le GAC a participé de façon suffisamment précoce dans une série de circonstances. Nous avons essayé aussi de voir comment aider les membres du GAC et avoir davantage de soutien de la part de leur gouvernement en termes de... Si les gouvernements savent ce qui se passe, ils peuvent avoir davantage d'autorité, de ressources, de temps pour les représentants du GAC, ce qui va permettre aux représentants du GAC de prendre des décisions en temps voulu, ce qui représente des décisions qui représentent vraiment la position nationale sur des problèmes discutés. Comme cela a été dit plus tôt, il va y avoir des groupes de travail conjoints entre le GAC et le directoire qui vont analyser la mise en œuvre de ces recommandations et cela va être très utile pour nous d'entendre les questions, les idées, les suggestions dans ce domaine. Demain, nous avons une réunion interne du GAC sur ce point-là. Et après, l'après-midi, il y aura une réunion conjointe avec le board, avec le directoire, sur des différentes questions, comme par exemple la mise en œuvre des recommandations de la DRT, hein, entre autres. Bien, au nom du board, Christis voudrait faire un commentaire. Bien, quelques petites choses. Et je voulais dire que les recommandations, la recommandation 12-13, lorsqu'elle parle de ce processus pour engager le GAC dans la prise de décision des politiques, je pense que ce qui manque ici est un processus. Hein, et dans la partie de la démarche accélérée, il n'y a pas de processus en lui-même. Ce que je voulais dire, c'est que le board s'est mis d'accord pour mettre en place un comité. Et Bill Grams, qui n'est pas avec nous, sera à la tête de ce comité. Donc je pense qu'après la réunion entre le GAC et les membres du directoire, je pense que nous allons pouvoir commencer à travailler. Et je pense qu'on attendra ces recommandations et on va essayer de rattraper le temps perdu et la mise en œuvre de ces recommandations. Merci, Chris. Merci, Bruce. J'étais le coprésident du groupe de travail entre le board et le GAC. Et je voudrais aussi souligner qu'une série de ces recommandations des ATRT ont été analysées par le groupe de travail. Il y a eu des discussions pour essayer de comprendre ce que cela signifiait et l'idée du travail qui était concernée. Et par conséquent, ce groupe a été formé maintenant. Il va commencer à travailler depuis le début. Et
in a more forceful manner than you might think from just the fact that now we're forming this new working group to get the work done.
Yes, go ahead, Benna.
Yes, and sorry for not mentioning the JWG recommendations. The joint working group is going to be working on implementation of the recommendations of the JWG report that has been recently adopted by the board, as well as the GAC-related part of the ATRT recommendations. So.
Thank you. And I noticed one recent development is that, picking up on Chris's comment, that I know in the GNSO there had often been verbal meetings early in the policy process, but that hasn't resulted in a direct communication. But recently the GAC did actually directly communicate in writing on a particular policy topic in the GNSO. So, you know, it's an example of where, trying to engage earlier in the policy process. So I'll open it up to the floor then. If any questions or comments on the work the GAC and the board are doing together on improving processes. Yes, go ahead, Steve.
Steve DelBianco with NetChoice, and I'm also a member of the BC. One of the tests of our improvements is to apply an example, a present example, and see whether the improvements actually address it. It has to do with the communication between the GAC and the board, GNSO, ALAC, and CCNSO. Bruce, one of the resolutions you adopted in Cartagena that you moved and the board adopted was the notion on defining consumer trust, competition, and choice in the context of the new GTLD program. And you're aware that the board resolution asked for advice from four different groups, the GAC, ALAC, GNSO, and CCNSO. So does this program assure us that everything is being communicated correctly, because the GNSO, ALAC, and CCNSO are already meeting on that to try to address what's in the resolution? We have a meeting this Thursday. But we have been unable to have any communications with the GAC about whether they intend to fulfill that advice directly to the board and when. And the resolution had called for San Francisco. We're way past that. And we've invited the GAC to participate with us in a sort of a cross-community working group. But did the board formally send a request to the GAC asking for advice, or does the board believe that a resolution asking for advice is sufficient? And if not, we ought to modify our communications between the GAC and the board for that reason. So, Bruce, I know you were whispering, but I asked, after your resolution passed, did the board also send a formal request to the GAC asking for advice, or do you assume that the resolution is a form of asking.
Yeah, that's a very good point, Steve, because I've come across that in a couple of discussions I've had this week. I think often in the past the board has thought that passing a resolution with a request would enact that, but I think you're right. From a process perspective, there hasn't then been a formal letter or a separate formal communication, so that may be one of the things that we can improve from a process and tracking perspective, because not everybody reads every word of our resolutions, I suspect.
That's right.
If you're asking the question specifically, what's the GAC going to do, I would hand across to Manal, and if she can't respond today, then maybe the GAC, later this week, I know Heather has a presentation later in the week, could respond on what the GAC's doing on that, but I'll give Manal the option of responding, or you can simply say that you'll get an answer back later.
Actually, I'm not in a position to have a ready answer on what the GAC intends to do in this specific case. But again, the question you raised is a typical thing why we have to put this accurately in a system that documents the way of communication between the GAC and the board, because it happened so many times that the board expects that the GAC already knows this thing, and the GAC also expects that what have been said is should be considered as the GAC advice. So, and as I said before, it should be as simple as what we expect from the board and what is expected from the GAC side. Just we have to put it in writing and have a system ongoing, whether GAC members, GAC representatives change or board members change, so that things are crystal clear.
And I appreciate that, but that does make it feel as if it's a bilateral communication between the board and the GAC. And I just want to remind you that in many cases it's multilateral. The ALAC, GNSO, and CCNSO were part of the same resolution, and we need an ability to communicate more directly with GAC so we can invite you to the working group, keep you informed, and learn very early if you have advice on this topic, because after all, consumer trust in the new GTLDs is vital to law enforcement and governments.
And I think this touches on two things, how to involve the GAC early within the process, and at the same time how to formalize the GAC advice, because, I mean, it's... So far, again, the GAC expects a formal written invitation from the right. board and communicates back to the board. So,
okay, thank you.
Thank you. And Ray, I think you wanted to respond as well.
Yes, this matter was also discussed extensively inside the working group. Not only the matter itself to occur, but the instrumentality by which it will occur. There are extensive discussions on the feasibility of liaisons, for example, a whole host of things in terms of opening up communication channels to get things rolling. The idea, and when we're discussing what constitutes GAC advice and when does GAC give advice, how does the board request GAC advice, all those things have been discussed, and... I will say that we probably spent most of our time in that working group discussing this particular matter, because it's a complicated thing when you put it all together. And so there have been things that have been done quickly to get things whirling, but as Manal has said, there's still more work to be done here, and there are certain things that have to be done in regards to what expectations are and what... in the end, is going to be the most efficient way of making sure that the communications paths work in both directions and that they remain open and clear.
Okay. Any other questions on... yep, looks like we have one from the
public. I was trying to clarify. Janice Lang, for the record, I'm speaking on behalf of Karen McCarthy. His question is, what has happened to the process for the GAC and the board to formally disagree that was provided by ICANN staff to the GAC in January, and he provides the link to the GAC board bylaws mandated process. And Karen, I know you're listening, so if I did that incorrectly, again, the question, what has happened to the process for the GAC and board to formally disagree that was provided by ICANN staff to the GAC in January?
Janice, I have no idea whether that's a general question or a specific. I don't know if Kieran's actually can type fast enough, but is he talking about a specific, just the process generally, or a specific disagreement process for new GTLDs?
He's providing me the answer right now.
Well, what we'll do is we'll just ask the Amy Stathos from the General Counsel's office to respond on the status of that document. But the recollections that came out of when we were looking at new GTLDs at the time, and we specified a process. So the question is, is that an agreed process, or is it under further development?
I was going to say the same thing, Bruce, not to ever imply that I can think and understand what Kieran's thinking, but with respect to what I believe he means is the process is there was a written process that was provided to the GAC for review at the time when we were talking about these various issues, and I don't believe that it has ever been completed and agreed.
So I guess the answer to Kieran is that process is, it's not completed and agreed, but it would be one of the topics that the board and the GAC implementation group would look at to get an agreement on that. So in future cases, we can use that process. Yes. Yes. Yeah. Ray Polzak's just noted that is actually work underway under 9 and 10 of these recommendations. Okay. So it's work underway, not finished yet. Okay. I think we can probably move on to the last topic then, and this is the topic of improvements that are being made in the public comment process and improvements being made in providing various forms of language translation. This work is being led both by Mike Silver as a board member, and he's also chair of the Public Participation Committee. So hand across to you, Mike, if you have any opening remarks, and then we'll open up to the floor.
Thanks, Bruce. I think it's very clear this work is being led by Denise and then with the public participation team, Felice, Janice, various other people. It's certainly not being led by me. Board members are here to observe and taste. They're not here to lead work. So let me clarify that from the start. In no sense is it absolving myself from responsibility, but rather not trying to take credit for what I view as being really excellent work. Most of you will know that the question of the public comment process has been discussed for a number of years. A lot of it has centered around improvements around the specific forum tools that we use for the submission of public comments. The ATRT has some very specific requirements, in particular the introduction of a comment reply comment cycle, the question of trying to stratify and prioritize various notices so that people can more easily identify what is relevant to them, the question of the timelines. There are also issues around multilingual access, creating an annual plan so that people have a better idea and can plan accordingly, and ensuring that staffing is appropriately multilingual. In that regard, the comment process is being revised at the same time as ICANN is undergoing an absolutely massive website adjustment or revival. And there was a suggestion that a lot of this be put on hold until such time as the website had been done, new tools would be put in place. And we felt that that would be giving inadequate recognition of the importance of the ATRT. So in accordance, we recognize that there may be some additional stratification and there may be additional improvements that come in with new tools, but the team have done their best to meet the requirements of the ATRT, as well as to introduce a process that is workable going forward under the new tools as well as under the existing tools. So you may have seen we've gone through a testing phase with a small user group who've been able to interact with the new tools. It's gone out for public comment. If I'm not mistaken, it's still in, or the reply comment cycle has just closed, and we'll be going through that, evaluating and pulling the results together as regards issues like stratification, prioritisation. The staff has also put out the annual forecast, and there's also a fair amount of work that's being done with regard to multilingual access and the translation policy, as well as actually getting down to the translations themselves.
Thank you, Mike. Any questions on that public process? Jonathan.
Yes, Jonathan Zook from the Association for Competitive Technology. I participated in the working group on improving the public comment process and drafted comments for the IPC, so I've been pretty involved in it. But one of the things that keeps surfacing in those discussions is that none of these recommendations about stratification, reply cycles, et cetera, will have any impact at all until the issue of how comments are addressed once they're received is really formalized. And I know that was a part of a previous topic. But unless there's some interaction with that process in this one, you know, stratification isn't going to lead to better public participation. Confidence that those comments are, in fact, taken into consideration and how they're taken into consideration is what's really going to lead to greater public participation. So we need to find some way to have those two processes interact, or this one is going to be totally irrelevant.
Jonathan, I agree with you completely. And it's one of the internal functions not specifically mandated by the ATRT that the team has been looking at, is looking at revising and documenting some of the standard staff operating procedures to give clarity as to how comments are handled, when a request for comment is put out, how it's dealt with, how the comments are synthesized and presented through. And I think the point is a good one, because unfortunately on the board, the ability to drill down on every topic and go through every comment period and read every comment posted is unfortunately limited. So accordingly, we often rely on staff summaries. There's a question now in terms of the publication of summaries. As you said, that's dealt with elsewhere. But it certainly does give the community a better idea of the basis on which the board has made decisions. The one thing that I find rather interesting is I've heard a lot of criticism over the years about staff having not necessarily correctly or appropriately reflected the public comment. Yet, interestingly enough, since we've started publishing the documents, nobody's come to me with a documented situation where staff have ignored a comment or have in any way not reflected the appropriateness or the tenor of a comment. That being said, maybe staff suddenly had an overnight change of heart, recognizing that their summaries were being published, and suddenly decided to get honest with us. Or maybe they've been honest all along and the community has an issue with it.
Well, those are both interesting points. I think part of the issue with how comments are summarized has to do with errors of omission as much as it is with misrepresentation of facts, that sometimes comments, the report on comments has been sort of cleansed to a point where it seems as though there's a greater consensus around something than there might otherwise be. But a very specific example, one of the discussions that's taking place within this process has to do with threaded discussions. That might be the biggest issue of contention in the public comment process surrounding the public comments. And I think that's a very real issue. We need feedback from the staff and or the board to understand whether the threaded discussion list will make it more or less likely that those comments are more easily summarized and addressed in some formal way by the board and the staff, because that could have a very real and material impact on the effectiveness of those public comments. And I think that's why the combination of those processes is critical.
Yep. Go ahead, Rob.
Thank you, Chair. Mike, I have to take issue with what you just said about the fact that public comments are, no one's come to you with any comments about that. Yesterday in the GNSO meeting with the, which particular meeting was it? In any case, it was with Kurt Pritz when he was giving a briefing to the GNSO on an update on the process. And as I understand it, Chuck said to Kurt, on the seventh iteration of the book, which is this one, there were more comments made than any other had been made before, yet the book had changed hardly at all. So at that point, Kurt said, all the comments we've heard before, That says to me the community is screaming that you never heard us, you never heard us, you never heard us, seven times. And staff is ignoring what we're asking for. I spoke to another member of the community who's a very well-known member of the community, and he said to me, it's not just as bad as that. He said, I was watching the iterations of the book and a particular topic, watching to see how that would evolve. And then I was waiting to make my comment. When I made my comment, it was agreed that it was a good comment. But I was told by Kurt, I'm sorry, it's too far along now. It's baked into the system. So this is a little bit like the carnival game where you have the two circles going past. If I shoot the arrow through and I get it through the first one and the second one, I get a prize. But if I hit the first one or the second one, I'm sorry. It's a little bit tough for us from the community to ask again and again and again for specific things and be told, I'm sorry, it's just not on because we've heard it before. So this is the issue for us. It's not about the fact that staff is not responding to our story. I think just now, as we heard, that it's a lot of times it's sanitized. We've listed all the questions. Here's our comment. We don't have a chance to come back and say, well, that's not what was said, unless we post again in the next iteration of the book our comments. So unfortunately, this issue is a big issue. We're feeling very badly about the fact that we don't have a chance to make our get a message across because staff is not taking those issues and putting them in the book.
Ron, I think valid points, and maybe I was being a little bit glib in my earlier comments, but recognizing that the applicant guidebook is not the only policy issue, and it's actually an implementation issue. And it's not the only policy issue that ICANN deals with, but it is one of the very few that goes through as many iterations as it has been. So that being said, I think we can recognize it as a special case. It's certainly, I take your point that as a special case, it hasn't been treated with the level of care that you're expecting, especially going through this question of iterations and whether, you know, when something actually gets baked in versus when is it still fluid enough to get edited and amended. I'm hoping that the majority of comment cycles that we go through don't have to go through six or seven iterations before we get to finality, but it's a single iteration. But I think it's a very valid point, and especially when we're dealing with a complex issue which is going through multiple rounds of iteration, I think that's something that we certainly can look at as how to treat those special cases.
And I think, and I very much appreciate what you've just said, but the real issue here is nothing should be hard-baked until the final book says final book. And if the community keeps coming back asking for specific things, I don't think staff have any alternative but to make the change or tell us exactly why they haven't made the change. And I'm telling you, as I've been at the microphone too many times to ask the same question or remind the board of the same issue, and staff do not respond to why they're not doing it. We just get hung out to dry. There are so many issues in the book. Consensus building within our community on all the issues is impossible because one group's worried about this, another group's worried about that, another group's worried about that. You go and try and talk to others about your issue, and they'll go, yeah, that's a good issue, but our issue is bigger. We have to focus on that one. So it's a divide and conquer mentality that we're feeling, and it's not right. So I think when it comes down to the fact of when the community makes it very clear things that they're looking for in the book, I think staff have no alternative but to put it in the book or make it very clear to us. Thank you.
Thank you, Ron. That's helpful, and I think we do need to look at how we improve those processes. Any other comments on the public comment process? Yep, go ahead.
Brett Fawcett. Yep. One of the things I'd like to suggest is that when you revise the public comment process, you think about a commenter authentication process. I know right now that you've got feedback loops, so you put in a public comment and you've got to click the link that comes back to you. But actually having to fill out a form and say, you know, my name is Brett Fawcett, this is my address, these are my interests, these are people who are paying my bills, so that you get a feeling for who is actually commenting, why they're commenting, what their financial interests are. And I say this in advance of next summer when I think with the new TLD applications published, you're going to get a flood of comments, and try to distinguish between the ones that are maybe the AstroTurf comments, the ones where people have a financial interest in outcomes. Let's figure out exactly who's commenting. And I think the better comments have always authenticated themselves. People have said who they are and who they represent. But I think next year we're going to have a bunch of new people coming to the process, and it would be nice to have a mechanism where they can say, this is who I am and these are my interests.
Brett, thank you. I think that's a very useful comment on the comment process. What I would not like to do, though, is exclude the unauthenticated commenter, but rather to provide the recognition due to authenticated commenters that they have indicated who they are, they've kept their details up to date, we know who we're dealing with. Unauthenticated commenters go into the list of potential AstroTurf, as you say, and I like that turf, I like the term. I think it is useful.
Excuse me, sorry.
Yep, go ahead. Yes, yes,
sorry,
please.
To disturb you. We will start the opening ceremony, and the president will be there. So we have four protocol issues to close this session.
Okay, thank you. Well, I think we've pretty much come to the end. There was only one final topic on how we're going to measure it, and we'll pick that up later in the week. So thank you all for attending, and we will now close this session.